Bonjour et merci d'être encore venu pour cette 9e leçon sur le départ du bouddhisme. Je rappelle que le départ, c'est au sens de se départir de, n'est-ce pas, se séparer du bouddhisme, le Japon se séparant du bouddhisme. Nous avons presque passé, je vous rassure, ce n'est pas tout à fait exact, nous avons passé presque les deux tiers du cours de cette année sur l'œuvre de Tominaga Tsuki ou Nakamoto, n'est-ce pas, que je n'ai plus à vous présenter. Donc, c'est plus que je ne prévoyais à l'origine, je dois vous l'avouer, et c'est même l'inverse du rapport que je me proposais d'établir entre les deux penseurs, puisque c'est, je crois que c'est un mot qui n'existe guère qu'en français, mais c'est tout à fait indiqué, ce ne sont pas des philosophes, ce ne sont pas non plus des théoriciens, mais ils ont pensé. Kangau en japonais, Kangaeru en japonais moderne. N'est-ce pas ? D'ailleurs, on verra apparaître ce terme tout à l'heure. Mais il faut avouer que l'intérêt des idées de Nakamoto, de Tominaga Tsuki, n'est-ce pas, l'originalité de sa pensée, comme le rapport subtil existant entre les deux parties de son œuvre, vous vous souvenez, n'est-ce pas, le libelle du vieillard et les propos au sortir du recueillement, nous ont amenés à rester avec lui plus longtemps peut-être qu'il n'était raisonnable, enfin peut-être pour mes auditeurs. Il se peut aussi que certains de ces développements aient été trop complexes pour être pleinement appréciés au-delà des études bouddhiques, en particulier sur le langage, mais je ne vous rappellerai pas ce cours, peut-être assez pénible de l'extérieur. Mais l'on nous accordera que la hardiesse de ses conclusions et la liberté de son attitude méritent malgré tout l'attention des historiens de la pensée. Il est plus que probable que si Nakamoto avait pu vivre plus longtemps et donner sa pleine mesure intellectuelle, il est mort à 30 ans, 31 ans, n'est-ce pas ? Et si les autorités l'avaient laissé poursuivre ses activités d'enseignement, ce qui n'est rien moins que certain si l'on imagine les voies où il se serait aventuré, et d'ailleurs on va voir même qu'avec Atsutane, ça n'a pas été tout seul non plus, il serait certainement devenu l'une des figures majeures de son vivant. Sa mort précoce n'a cependant pas empêché d'être reconnu, quoique tardivement, vous souvenez, comme un précurseur dans les études religieuses. Et, comme nous l'avons vu, l'importance qu'on lui reconnaît ne se limite pas aux études bouddhiques, mais même à la proto-histoire de la discipline académique que l'on a appelée ensuite « science des religions », terme auquel je préfère d'ailleurs celui d'histoire des religions. Et si je peux faire un plaidoyer, je ne sais pas s'il sera entendu d'ici, mais pour le retour à l'histoire des religions, le terme allemand de science des religions a dominé pendant un certain temps pour toujours cette espèce de complexe d'infériorité qu'ont les sciences humaines. Évidemment, c'était la traduction de l'allemand Wissenschaft, n'est-ce pas, qui ne veut pas dire tout à fait la même chose que science ici, mais pour considérer qu'il y a une science des religions qui aurait dépassé l'histoire des religions, et j'ai encore vu cela tout récemment avec quelqu'un qui contrastait les deux. Non, et l'histoire des religions est une discipline entièrement humaniste fondée sur l'histoire, la philologie, le traitement des textes et quelques idées aussi. Et je pense que c'est un domaine qui devrait être revivifié au moment même où il revient à l'actualité, mais dans des acceptions tout à fait différentes, n'est-ce pas ? Nous en sommes maintenant à la neuroscience des religions, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dans tous ces domaines, on pose désormais Tominaga Nakamoto comme l'un de ces intellects qui dépassent leur époque. Et on n'a peut-être pas tout à fait tort. Comme je l'ai dit et redit, son élaboration de la voie véritable ou de la voie de vérité, le Makoto no Michi, devait en toute logique déboucher sur une doctrine politique qu'il est difficile d'imaginer, mais dont on a peine à concevoir qu'elle ait pu ressembler à ce qui se dessina deux générations après lui, avec la modernité japonaise, le nationalisme japonais et ce qu'il faut bien appeler à un moment ou à un autre l'impérialisme japonais, n'est-ce pas ? Si nous avons fait allusion aux quelques mots d'éloge écrits par Motohori Norinaga à propos de Tominaga Nakamoto, c'est chez le disciple, il faudrait mettre « disciple » entre guillemets, n'est-ce pas, le disciple, nous le verrons tout à l'heure, je vous en ai peut-être déjà un peu parlé, mais je reviens là-dessus, le disciple indirect de Norinaga qu'a été Hirata Atsutane. Et c'est chez lui, donc, que l'on retrouvera, chez Al-Sultani, que l'on retrouvera le plus grand écho de ces idées, nous allons le voir tout à l'heure, même concrètement, bien que l'on puisse s'interroger sur ce qu'aurait pensé le jeune iconoclaste qu'était Tomi Nagatsuki, n'est-ce pas, de l'usage qu'il en fut fait. Mais avant d'aborder cette question, il faut présenter brièvement quelques éléments de la vie d'Al-Sultani. Ce n'est pas facile, je vais comprimer. Enfin, la vie elle-même n'est pas plus compliquée que la plupart des gens de son époque, mais son œuvre, c'est autre chose. Il faut d'abord rappeler que Hirata Al-Sultani est sans doute le dernier grand penseur de l'époque d'Edo. C'est pas. Penseur au sens de système de pensée était peut-être un peu exagéré pour l'époque, mais enfin, il a une immense œuvre dans laquelle on peut distinguer des conceptions tout à fait personnelles et descriptibles. Mais c'est sans doute le dernier penseur de l'époque d'Edo, mais ses idées eurent une importance décisive que beaucoup s'accorderaient à estimer malheureuse. Et c'est à son corps défendant, n'est-ce pas ? C'est à l'insu de son plein gré, comme disait l'autre, que sa pensée a été reprise, travestie même d'un certain côté, dans une direction qui ne l'aurait pas forcément intéressée. On reviendra peut-être là-dessus en la dernière leçon. Mais donc son influence, son importance décisive sur ce que j'appelle la refondation intellectuelle de l'époque Meiji. Comme je vous l'ai peut-être déjà dit, je préfère. On parle souvent de la révolution de Meiji, de la modernisation de Meiji, de la restauration de Meiji. Enfin, il y a plusieurs. Je pense que la refondation est le terme qui convient le mieux. Le Japon a remis sa culture en question, mais ne s'est pas jeté dans les bras de l'Occident. Il a cherché à se donner des bases nouvelles pour absorber, développer la culture occidentale. Mais en fortifiant ce qu'il s'est reconnu comme fondement, n'est-ce pas ? Alors évidemment, il y a toujours une part d'élaboration imaginaire sur les communautés imaginées dont parlait Anderson, mais ces refondations me semblent aller de mieux parce qu'on voit justement l'importance qu'ont eu ces penseurs d'Edo, n'est-ce pas, que ce soit Norinaga ou Al-Sultani, dans cette perspective. Donc c'est loin d'être une révolution, à moins de parler de révolution conservatrice, ce qui sont des mots, une contradiction dans les termes qui est un peu gênante. Mais voilà, donc pour moi, ce qu'on appelle Meiji Ishin, je le traduis par la refondation de l'époque Meiji. Et c'est une refondation largement intellectuelle. La démesure dans l'expression, vous allez le voir, de celui qui s'était surnommé lui-même un Aramitama, n'est-ce pas, hein, c'est-à-dire un esprit au sens d'esprit de fantôme, n'est-ce pas, un esprit déchaîné, n'est-ce pas, ces esprits que l'on conjure et que l'on ne peut contrôler, enfin l'aspect irrité des divinités tibétaines, si vous voulez, sauf que nous sommes au Japon. Ce sont donc des entités spirituelles incontrôlables. Et son caractère donc, ne contribuera certainement pas à apaiser les relations dans les premières années de la révolution culturelle, comme le disait Alain Grappard, que fut le mouvement anti-bouddhique de Meiji, où il a été grandement utilisé. Il n'était plus là, évidemment, puisque je vous ai dit que ce Haibutsu Kishaku, n'est-ce pas, ce mouvement pour détruire le Bouddha et sa doctrine, a sévi, disons, des années 1860, de la fin des années 60, 1868-69, jusqu'aux années 1873, dans une perspective tout à fait, c'est vrai qu'il ne faut pas reconnaître, il ne faut pas nier les choses, c'est une perspective qui aurait plu d'un certain côté à Al-Sultani, mais voilà, il ne l'a pas, on ne peut pas dire que ce soit lui qui l'ait commandé. Donc, Hirata Al-Sultani naquit en 1776, dans la famille Owada, qui est une famille vassale du puissant clan des Satake, n'est-ce pas, dans l'actuel département d'Akita, qui est dans le nord-ouest du Japon. Sa famille appartenant à une classe mineure de samouraïs, ils étaient, vous savez que les samouraïs étaient certainement constituaient une sorte de noblesse, mais il y avait des hiérarchies extrêmement strictes qui étaient délimitées, qui étaient déterminées par les revenus que le clan leur fournissait, revenus calculés en boisseaux de riz, n'est-ce pas ? Et donc, c'est jusqu'à l'époque Meiji, et ces boisseaux de riz, il fallait les monétiser d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas ? Donc, ça n'en est pas tout seul, et la condition de ces petites familles de samouraïs était, on peut dire qu'elle était précaire. Donc, il semble qu'il n'ait pas eu une enfance heureuse, ballotté qu'il fût d'une branche à l'autre de sa famille, puisque sa belle-mère, encore une fois, nous avons beaucoup d'histoires de belle-mère dans le Japon prémoderne et jusqu'à l'époque Meiji, vous savez que les morts en couche étaient très, très nombreuses, comme partout, et puis il y avait aussi des maladies, la tuberculose et tout cela qui étaient assez... qui sévissait de façon très sévère. Donc il aurait été élevé en grande partie par sa belle-mère, qui ne l'aimait pas, bon, c'est une histoire connue. Il reçut cependant une initiation à la culture chinoise classique, comme tous les enfants de classe aisée ou bourgeoise, enfin aisée, de classe reconnue, si vous voulez, en particulier les samouraïs, dès l'âge de 6 ans. En particulier, ce sont ce qu'on appelle les teragoya, n'est-ce pas, les écoles de temples qui étaient des sortes d'écoles rurales, privées bien sûr. Parfois, vous aviez aussi des écoles soutenues par le clan lui-même. En général, c'était pour les samouraïs de plus grande, de meilleure tenue, mais enfin, bon, on ne sait pas exactement où a été éduqué Hatsutane, mais il s'est frotté à la culture chinoise classique dès l'âge de 6 ans. Ce qui n'est pas exceptionnel, tous les enfants mâles, n'est-ce pas, se frottaient de culture chinoise. L'un des grands changements de l'éducation de l'époque Meiji, c'est d'avoir incité les filles, les jeunes filles, les petites filles aussi, à faire du kanbun, n'est-ce pas, du chinois classique, au tout début de Meiji. Et aussi, sous la direction d'un de ses oncles, il s'est initié à la médecine, disons plus ou moins traditionnelle. Vous avez vu au fil de nos cours que beaucoup de ces lettrés avaient aussi une formation de médecin. C'est parce que l'un n'allait pas sans l'autre. La médecine, qui devenait quand même de plus en plus, je ne sais pas si l'expérimental convient, mais qui se développait assez dans un sens plus pratique à l'époque d'Edo, était quand même largement auparavant une discipline littéraire. La médecine consistait à étudier les textes médicaux. Donc, il s'est donc frotté de culture chinoise classique, de kanbun, puis de médecine. Il se rendit à Edo à l'âge de 20 ans, donc vers 1796, dans des conditions, là encore, il semble, c'est une sorte de fugue, si vous voulez, puisqu'il a fui une famille où il n'était pas du tout considéré, dans des conditions très misérables. Il donne quelques indications biographiques de loin en loin. Il est parti avec un seul ryo, n'est-ce pas, bon, ce qui n'est pas mal, mais ce qui ne permet pas de vivre très longtemps. Et il s'est retrouvé à Edo vers l'âge de 20 ans. C'est là qu'il s'initia, semble-t-il, aux études de ce que j'appelle la philologie nationale, n'est-ce pas, au kokugaku, c'est-à-dire qui était en plein essor à l'époque, la remise à égalité, la remise sur pied d'égalité avec les études chinoises de la littérature japonaise. Hein, vous savez bien cela maintenant, tout en vivant misérablement de ce que Graeber appellerait des bullshit jobs, n'est-ce pas, des petits boulots pourris. Il en donne la liste, il a tout fait, maçon, porteur, etc. Mais il commença cependant d'enseigner, puisque l'on trouve dès 1807 mention de ses premiers disciples. À 25 ans, alors pour des raisons de rencontres intellectuelles, peut-être aussi de débouchés familiaux de la part de la famille adoptive, il fut adopté dans la famille Hirata, d'où son nom de Hirata, qui appartenait à un fief de Matsuyama, donc c'était beaucoup plus au sud, n'est-ce pas, dans le département de Okayama, et son père adoptif, Hirata Atsuyasu, semble avoir été un spécialiste du Heigaku, n'est-ce pas. Alors Heigaku est quelque chose de très large, littéralement science du soldat, qui n'est pas tout à fait non plus la science militaire, la stratégie que l'on va retrouver dans un instant. Ça peut vouloir dire à la fois une sorte de science théorique, mais ça couvre aussi les arts martiaux. Et il semble que Atsutane ait eu aussi quelques connaissances des arts martiaux. Mais enfin, donc c'est peut-être de ce côté-là que le beau-père, voyant une certaine... vous savez qu'au Japon, l'adoption était bien plus fréquente qu'en Europe, et c'était presque une formalité, ce jusqu'à des époques toutes récentes, c'est pas jusqu'à l'après-guerre, il y a quantité de familles qui ont des enfants adoptifs, et des enfants adoptifs adultes. C'est-à-dire que c'est simplement pour des raisons de transmission, pas seulement d'un héritage, mais d'un art. Dans les familles de peintres, de potiers, etc., vous avez très couramment encore maintenant des enfants adoptifs. Alors il semble que ce soit... Mais là on n'a pas de base exacte pour cela. Pour définir cela, donc les arts martiaux et vous allez voir l'intérêt manifesté tout de suite tout à l'heure par Atsutane pour le Gungaku. Alors Heigaku et Gungaku c'est un peu différent. Gungaku serait plutôt la stratégie et Heigaku ce serait la tactique, n'est-ce pas. Donc il se maria peu après. Dans une famille très, très modeste, qui n'était pas, parce qu'il arrive souvent qu'on se marie dans la famille adoptive, n'est-ce pas, et on prend à ce moment-là le nom de son épouse, mais ce n'était pas le cas. On sait que sa première femme, s'appelait Orise, et donc il perdit sa femme en 1812. Vous allez voir que c'est une année décisive, puisque c'est sa première grande œuvre qui paraît à ce moment-là, et la perte de sa femme. Alors, c'est bien qu'on peut, il ne faut pas faire de psychologie à bon marché, mais ça a certainement été quelque chose de très important pour ses idées concernant l'au-delà. C'était un vrai traumatisme pour lui, ça arrive à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, lorsqu'il se remaria, enfin, je ne sais pas si... Il se remaria 6 ans plus tard, et en donnant à sa seconde épouse le nom de sa femme, le prénom de sa femme, Orise, n'est-ce pas ? Donc vous voyez que c'est quand même assez. Et il y aura une petite fille, il va avoir 3 enfants, deux garçons qui vont mourir très tôt, et une fille qui survivra. Et sinon, sa fille, du moins la petite fille, reprendra le nom de Orise, n'est-ce pas ? Vous voyez, c'est un événement, disons, psychologiquement important. Bien différent en cela de Tominaga Nakamoto, n'est-ce pas, comme de Motoori Norinaga, Atsutane semble avoir découvert de pair, justement, ensemble, et peut-être aussi à cause de cette histoire personnelle, n'est-ce pas, le monde du Kokugaku, de la philologie nationale, et le monde des esprits, le monde de l'au-delà. Et bon, je le redirai tout à l'heure, mais je vous le dis déjà, ce qui est très intéressant, c'est que cet aspect, cette facette que je pourrais définir comme occultiste de Atsutane a été occultée justement pendant assez longtemps à cause de, pour les raisons de symbolisme nationaliste pour lequel avaient été utilisées ces idées, n'est-ce pas ? D'ailleurs, sa découverte même de la philologie nationale, du Kokugaku, se fait presque sur le mode surnaturel, c'est-à-dire il y a une disposition chez lui, n'est-ce pas ? On connaît le célèbre épisode, alors est-il enfin, l'épisode, bien sûr, n'est pas vrai, mais est-ce que c'est à Tsutane, enfin, bien sûr, j'en sais rien après tout, mais est-ce à Tsutane lui-même qu'il a relaté à ses disciples, ou est-ce que ses disciples l'ont inventé un peu plus tardivement? Là, il y a discussion là-dessus. Mais il a découvert la pensée de Nolinaga, d'ailleurs grâce à sa femme, semble-t-il, qui lui avait rapporté l'un des livres importants de Nolinaga. Et il voulait, bien sûr, mais comme vous le savez, Nolinaga est mort en 1801. Lui a commencé donc sa vie intellectuelle, manifestement, entre 1805 et 1810. Il n'a pas pu le connaître. Il a été rencontré le fils adoptif, encore une fois, de Nolinaga. Vous voyez, on est toujours dans des familles recomposées de l'époque. Et il dit avoir rencontré en rêve Nolinaga et lui a demandé de faire partie de ses disciples. Et, chose étonnante, Nolinaga l'a autorisé, si bien qu'après, il a voulu demander, vous savez qu'on ne dit pas au Japon, je suis disciple de machin chose, comme ça, il faut des attestations, n'est-ce pas? Et si bien qu'il s'est rendu à l'école de Nolinaga à Kyoto, qui était à cette époque, et il a voulu demander d'être mis au rang des disciples posthumes de Nolinaga. Ça lui a été accordé, mais vous allez voir qu'après, les choses vont se compliquer. Donc, vous voyez, même dans la philologie, on est à la limite du Stephen King. Donc, la notoriété venant, il commença à enseigner dans l'académie privée qu'il fonda aux alentours de 1804, dit-on, à Edo, et qui porta les noms successifs de Masuge no Ya, puis Ibuki no Ya. C'est ce surnom que nous allons retrouver tout à l'heure dans la préface du livre que je vous présenterai. Évidemment, je n'ai pas le temps encore une fois, l'importance décisive de ces académies, de ces juku, n'est-ce pas, ces shijuku. Vous aviez des académies privées, qui étaient bien très, très nombreuses, et puis des académies, sinon privées, du moins officielles, soit protégées par l'État lui-même, avec tout un système d'autorisation officielle. Et n'oubliez pas que dans les académies, j'allais dire sponsorisées, soutenues par le shogun, par le gouvernement shogunal, on ne pouvait plus enseigner que le néo-confucianisme. Depuis le 1793, je crois, là, ou 89, je crois que c'est 93, le néo-confucianisme, ce qu'on appelle le Shushigaku, devient la doctrine officielle. Ce qui permet justement aux académies privées, tant qu'elles ne sont pas trop bruyantes, de propager d'autres doctrines. Ça va être évidemment bien sûr le cas avec le Kokugaku, puisque le Shushigaku ne va pas trop être leur tasse de thé, comme on dirait en Angleterre. Mais c'est vraiment le moyen de propagation des idées au Japon à l'époque d'Edo et au début de l'époque Meiji, se fait par ces académies qui sont extrêmement importantes. Il y a maintenant des recherches très intéressantes qui sont faites au Japon depuis longtemps. Bien sûr, on n'a pas entendu l'Occident pour le faire, mais les Occidentaux s'y sont mis aussi depuis une petite cinquantaine d'années. Alors, il obtint cependant une manière de reconnaissance officielle, malgré ses attaques violentes contre le confucianisme, qui ont commencé très tôt, puisqu'il fut admis à enseigner sa vision du Shinto, je résume, qu'on va appeler Kodo, n'est-ce pas, Furuki Michi, la voie ancienne, Inichie no Michi, la voie de l'Antiquité, la voie antique, la voie ancienne. Donc il va avoir le droit d'enseigner les desservants des sanctuaires Shinto, n'est-ce pas, c'est très important. Enfin, vous savez qu'il y a plusieurs branches du Shinto et des branches plus proches du gouvernement. Donc il va avoir le droit d'enseigner dans cette filière, ça veut dire. Mais son exaltation grandissante de la maison impériale, vous allez voir quelques échos déjà tout à l'heure, qui accompagnait sa critique du confucianisme, finit cependant par importuner le gouvernement. Bon, il voulait bien soutenir le Shinto, mais quand même pas à ce point. Et comme vous le savez, le gouvernement shogunal commençait à s'inquiéter de tout ce qui faisait figure de restauration impériale, ce fameux mouvement Sonno-Jōi, n'est-ce pas, respecter le roi, c'est-à-dire le souverain, l'empereur, et chasser les barbares, qui commencera à se condenser, se coaguler autour de la fin des années de la vie d'Atsutane, et qui va être à l'origine de la, alors là, ce qu'on peut appeler la restauration de Meiji, c'est-à-dire restaurer l'empereur au centre du gouvernement, même si c'est symbolique. Enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. La réaction fut tardive mais ferme. Il fut expulsé d'Edo en 1841, donc vous voyez au moment où ce Sonno-Jōi, chassons les barbares, vénérons l'empereur, ou vice-versa, donc il fut expulsé d'Edo pour trouver refuge, alors retour aux sources, n'est-ce pas, chez un neveu de sa famille d'origine, donc les Owada. Il repart dans le Nagano, dans le département dans son pays natal d'Akita, qu'il avait quitté plus de 40 ans auparavant. Il n'y demeure que peu de temps, puisqu'il meurt en 1843, à l'âge de 67 ans, ce qui pour le Japon, même le Japon de l'époque, n'est pas si vieux. Alors, il laissa un grand nombre de disciples directs et indirects qui sont comptabilisés, n'est-ce pas, 400 et des poussières pour les directs, tout ça, je vous dis, parce que les disciples, ce sont des choses officielles, reconnues. Et tandis que ces idées, nous l'avons dit, influencèrent profondément les courants refondateurs d'Edo, pas pour le meilleur, comme on le sait. Si on le compte, ou il se compte, mais à force de le dire, les gens ont fini par le croire, même ça d'ailleurs, ce sont peut-être ses disciples qui l'ont inventé, hein, parmi les quatre grands, n'est-ce pas, le Kokuyaku no Shidaijin, les quatre grands hommes du Kokuyaku, de la science nationale, ce que j'appelle la philologie nationale. Donc, alors il y a des. Évidemment, vous avez Kamono Mabuchi, Motohori no Niaga, Et puis Hirata Atsutane, le premier, pour moi, je prends la liste qui commence par Keiichu. C'est un peu paradoxal, Keiichu ayant été un moine bouddhique, n'est-ce pas, du début du XVIIe siècle, mais c'est lui qui, justement, comme je vous l'ai expliqué, et ça c'est très intéressant, maintenant c'est bien connu et c'est moins provoquant qu'avant, mais cette philologie nationaliste fondée sur la langue japonaise provient largement des travaux sur la philologie bouddhique de Keiichu, qui était un ésotériste, n'est-ce pas, du Shingon. Et comme vous le savez, vous vous souvenez de mon cours sur Kukai et son traité sur la réalité des phonèmes et des graphèmes, c'est exactement dans cette école-là. Alors ça rend encore plus savoureux le texte que je vais essayer de vous lire tout à l'heure. Je vois que l'heure tourne. Voilà. Donc il se met parmi les quatre grands de la philologie nationale. Il est cependant très profondément différent des trois premiers. Certes pas par l'ampleur de l'érudition, bien que l'on puisse soutenir qu'elle a été plus vaste que celle de ses prédécesseurs, mais surtout parce qu'elle était de nature très différente. Il n'a pas étudié les mêmes choses que les autres, nous allons le voir tout à l'heure. Et puis aussi par la véhémence de son enseignement. Norinaga est véhément, mais il est véhément comme tout universitaire l'est à l'égard de ses chers collègues qui travaillent sur le même domaine, n'est-ce pas ? Et puis évidemment, il y a aussi son idée fixe quand même, mais qui n'est pas non plus la sienne, l'opposition entre, encore une fois, wa et kan, n'est-ce pas, le Japon, ce qui est japonais, ce qui est chinois. Mais là, sa véhémence prend une toute autre tournure qui justifie pleinement ce qualificatif de Aramitama, n'est-ce pas, d'esprit déchaîné. Et il se distingue en effet de ses prédécesseurs, non pas tant par son érudition, donc comme vous le savez, n'est-ce pas, les autres étaient de grands érudits, mais par la nouveauté des territoires qu'il a explorés. L'exemple le plus frappant de ce point de vue, mis en avant par les travaux de Richard Devin, j'essaierai de vous donner ces, parce que je ne fais pas de, je n'ai pas de PowerPoint aujourd'hui comme vous allez voir, parce que je vais tout de suite vous mettre des textes sous les yeux. Mais donc l'exemple le plus frappant, qu'on a peut-être exagéré maintenant, mais qui est quand même, c'est très frappant. C'est l'influence profonde et cachée du christianisme dans ses propres conceptions du Shinto, ce qui est paradoxal. Et Richard Devine, dans un article qui s'appelle, je crois, je pense que c'est... Je vous le donnerai la semaine prochaine. C'est justement un article paru dans Monumenta Nipponica il y a assez longtemps, dans les années 70, mais je vous redonnerai le titre complet. L'a mis en valeur, mais en se fondant sur des recherches japonaises qui est antérieures. Parce que le premier ouvrage d'envergure rédigé par Atsutane en 1806, et qui est intitulé... Alors, en japonais, c'est Honkyo Gaihen, n'est-ce pas ? C'est-à-dire traité. Gaihen peut avoir deux sens. Hen, c'est traité, disons traité. Gai, ça veut dire extérieur. Ça peut vouloir dire soit exotérique, c'est-à-dire ce qui n'est pas destiné à des gens propres à l'école, soit un traité qui se situe un peu hors norme, n'est-ce pas ? Un traité sauvage, en quelque sorte, de la doctrine originelle, Honkyo Gaihen. Mais donc, si l'on prend le sens exotérique, ça voudrait dire qu'il était destiné à une certaine diffusion, ce qui n'a pas été le cas. Parce que ce texte est resté manuscrit et ne fut jamais publié du vivant d'Atsutane. D'ailleurs, il était indiqué qu'il n'avait pas à être publié de son vivant et n'a été incorporé dans ses œuvres complètes qu'au début du XXe siècle. Or, dans cette esquisse d'une théologie du Shinto, profondément remaniée dans une perspective nouvelle, Atsutane emprunte entre guillemets, mais vous savez que là, alors tout de suite, les gens parlent de plagiat et tout cela, mais n'oubliez pas qu'une grande partie de la littérature japonaise scientifique, et d'ailleurs chinoise aussi, et même, est faite d'emprunts, de passages entiers, soit que l'on recompose, soit que l'on commente. Et ça peut aller très loin dans l'originalité. Le petit traité de Kukai dont je vous ai parlé, le Shoji Jisogi, n'est-ce pas, le sens de la réalité, c'est ma traduction, le sens de la réalité des graphèmes et des phonèmes, est entièrement bricolé à partir de textes chinois traduits du sanskrit pendant l'époque Tang, n'est-ce pas ? Mais ça donne un traité extraordinairement original par la pensée qui s'en dégage. Donc, il ne faut pas... tout de suite, on parle de plagiat, mais ce n'est, disons que c'est un emprunt constructif. Donc il emprunte des passages entiers d'œuvres rédigées en chinois classique. Vous voyez l'importance d'écrire en chinois quand on est missionnaire. Évidemment, il y a Matteo Ricci, qui est mort en 1610, tout le monde le connaît, c'est le pionnier de la mission chrétienne en Chine. L'espagnol Diego de... Alors, Pantora, ou aussi Pantoja, n'est-ce pas, qui est mort en 1618. Et le Vénitien Giulio Aleni, qui est mort plus tardivement en 1649. Donc, les trois ont écrit en chinois classique. Et ces textes sont arrivés au Japon, à la fois par les missionnaires occidentaux qui sont arrivés au Japon, dont manifestement certains livres importés, malgré les restrictions, les interdictions et les autodafés locaux, ont persisté. Et puis aussi, il y avait quand même un petit commerce de livres qui se faisait avec Nagasaki, n'est-ce pas ? La Chine, Nagasaki et le Japon. Et donc, l'ouvrage se présente comme des extraits de ces textes chinois de missionnaires, donnant lieu à des commentaires d'Atsutane qui les adaptent à ce qu'ils pensent être le véritable Shinto. Initié no Michi, n'est-ce pas vous voyez à quel point Atsutane lui-même illustre les idées de Tominaga Makoto, n'est-ce pas, Nakamoto, qui disait l'histoire des religions, c'est bien simple, c'est quelqu'un qui arrive en se réclamant de la doctrine originelle et qui en profite pour importer ses propres idées. C'est exactement ce que fait ici Atsutane, n'est-ce pas. Alors, il y aurait même d'ailleurs, d'après Devane, il y aurait même des emprunts à la somme de théologie de Thomas d'Aquin. Je pense qu'il ne faut pas exagérer, parce que Atsutane fait une dispute, mais comme je vous l'ai dit de façon récurrente, comme on dit maintenant, la disputation bouddhique, la disputatio en latin, la dispute bouddhique, Dongi, existait de longue date et a presque les mêmes méthodes. Donc la méthode question-réponse, c'est pas forcément du saint Thomas d'Aquin. Mais en tout cas, il faudrait approfondir cette question. Il faudrait malheureusement plusieurs leçons pour donner une idée de l'intérêt de ce texte dans lequel Atsutane se livre à une altération langagière qui nous donne une splendide illustration de la hiéroglossie japonaise et de la dialectique wa-kan telle qu'elle se déroule tout au long de l'histoire japonaise, et encore ici. Pour n'en donner qu'un exemple, le nom de Dieu, du Dieu des chrétiens, qui apparaît sous plusieurs appellations chez Ricci, n'est-ce pas, ou Rixi. Autrefois on prononçait Rixi, maintenant c'est Ricci. Le dieu des chrétiens et le dieu des catholiques, n'est-ce pas ? Vous savez que même encore en chinois moderne, on distingue catholiques et protestants par l'appellation de Dieu, les catholiques parlant de Tenshu en japonais, donc, et les protestants de Shangti, c'est-à-dire Jote en japonais, ou Shote. Donc Tenshu veut dire le souverain, le seigneur du ciel, et Shangti, c'est l'empereur supérieur. Et dans les textes de ces trois missionnaires, la plupart du temps, c'est Tenshu, le Seigneur Céleste, qui est repris. Et ce qui est très intéressant, c'est que, bien sûr, disons que les Japonais, même si les Japonais étaient isolés de la Chine, ils en savaient suffisamment pour savoir que Tenshu, c'était pas très catholique du point de vue japonais, c'était parce que c'est des gens très catholiques, donc on n'aurait pas utilisé. Et il se livre encore une fois à cette opération de camouflage qui caractérise la hiéroglossie, n'est-ce pas ? Il l'appelle Makoto no Kami, c'est-à-dire le vrai dieu japonais, n'est-ce pas ? Et vous vous souvenez de l'importance déjà chez Norinaga du Makoto no Michi, et chez repris de Nakamoto, Makoto no Michi, cette idée de vrai, de réalité, là il le plaque sur son idée du dieu, et le vrai dieu, c'est le dieu retravaillé japonais sous l'influence des missionnaires. L'une des caractéristiques des notes d'Atsutane, c'est l'audacieuse insertion donc de notions chrétiennes dans la description de ces divinités vagues et à peine décrites dont je vous ai parlé à propos de Norinaga, qui sont au début du Kojiki. Et ce qu'on appelle, on a vite fait, vous doutez bien, à l'époque Meiji, lorsque les missionnaires sont arrivés et commencé à regarder les textes, de parler de trinité à propos de ces dieux qu'on appelle Shitorigami, n'est-ce pas? Alors, on peut dire, ce sont les dieux un, Shitorigami, les dieux, mais c'est-à-dire les dieux solitaires. Mais évidemment, on a vite fait de transformer trois dieux un en un dieu en trois, n'est-ce pas ? Et d'un certain côté, c'est déjà Atsutane qui lance le mouvement en remplissant cette case vide du Kojiki que sont les fonctions, le rôle de ces dieux solitaires. Et donc, il remplit ce vide conceptuel grâce aux notions chrétiennes sur l'au-delà pour aboutir à une théologie, entre guillemets, shinto, renouvelée, qu'il développera dans ses œuvres postérieures. Ainsi donc, comme le souligne le grand spécialiste Atsutane, que fut Ishida Ichiro, force est de reconnaître que les grandes œuvres de ce penseur du renouveau shinto de l'ère Meiji furent toutes écrites sous l'influence du christianisme, puisque c'est son premier texte rédigé, n'est-ce pas ? Après, le reste arrive bien plus tardivement, les textes shinto majeurs, n'est-ce pas ? Et y compris donc l'influence du sermon sur la montagne qui est donné, qu'il adapte du chinois. C'est bien évidemment une différence majeure avec ses prédécesseurs. Mais reconnaissons aussi que nous avons là la dernière étape avant l'invasion de la modernité, de l'évolution de la pensée japonaise à travers la philologie de la hiéroglossie, à la fois la dissimulation et l'insertion dans la langue de concepts étrangers grâce à la méthode du kundoku, donc de la lecture explicative, où Tenshu, donc le dieu catholique, devient Makoto no Kami, certes, mais aussi Kakure no Kami, qui est un terme tout à fait shinto aussi, mais qui veut dire le dieu caché, qui nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas, dans les religions occidentales. Donc c'est un expédient, pour reprendre le terme bouddhique cher à Nakamoto, n'est-ce pas, l'expédient, le Hoben, grâce auquel d'anciennes entités se renouvellent en profondeur tout en gardant leur apparence de surface. Il est difficile de faire une description succincte de l'œuvre considérable d'Atsutane, mais il conviendrait d'en distinguer au moins deux facettes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La plus connue, celle qui a eu la plus grande influence dans l'histoire moderne du Japon, est son œuvre, disons, historico-théologique. Elle serait déjà, telle qu'elle, audacieuse, téméraire, novatrice, même sans que l'on ait conscience des influences extérieures qui l'ont guidé, comme je viens de vous le dire, le christianisme. Il ne faudra peut-être pas exagérer le rôle du christianisme, mais il est quand même là, et dès le début. On retrouve bien ici l'esprit d'Atsutane. Donc, il semble avoir été profondément insatisfait des sources traditionnelles de l'histoire et de la mythologie japonaise. Ces sources que sont le Kojiki, n'est-ce pas, le Nihon Shoki, un texte dont je vous ai parlé que très peu, qui est le Kongo Shui, qui a été traduit joliment en français par les glanes des récits anciens, qui est un texte plus. Vous savez que les deux premiers datent du tout début du 8e siècle, 712 et 720, mais le Kongo Shui date d'un siècle plus tard, 807. Et très remanié par son auteur, Imbe no Hironari, n'est-ce pas, qui a profité, enfin, qui l'a sans doute remanié pour tirer un peu dans le sens de l'importance de sa famille. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et puis, en plus, les Fudoki. Bon, j'en reviens. Donc, il se persuadait que ses œuvres étaient des sortes de membra disjecta, n'est-ce pas, de fragments éparpillés d'une antique histoire beaucoup plus fermement structurée, vous voyez, le livre inconnu, et qui donnait une vue plus fidèle de l'action des dieux depuis la création du monde jusqu'au début de la lignée impériale. Il se fia donc à son esprit critique, pourquoi pas, n'est-ce pas, pour reconstituer cette histoire antique qu'il appela naturellement Koshi, n'est-ce pas, Inishie no Rekishi, l'histoire antique, et qui était pour lui non pas une méta-histoire, mais l'histoire réelle du Japon. Je vous redonnerai la bibliographie la semaine prochaine, n'est-ce pas, mais je renverrai l'article de François Massé très important dans pour nous donner quelques indications à ce sujet. Donc cela aboutit à son texte complet de l'histoire antique, n'est-ce pas, le Koji Seibun. Ensuite, à d'autres, je vous épargne les titres japonais, qu'il fit suivre d'un commentaire, et ensuite d'un texte que nous allons retrouver dans les toutes dernières leçons, la preuve ou démonstration de l'histoire antique pour convaincre les sceptiques qui étaient nombreux, vous en doutez bien. Bien évidemment, un tel effort d'érudition devait se heurter de plein fouet non seulement aux lettrés formés à la plus stricte philologie des textes chinois, mais aussi aux disciples plus orthodoxes de Motohori Norinaga, qui furent prompts à déceler le caractère arbitraire de la méthode. Bien que ce remaniement ou ce révisionnisme historique ne fût pas admis dans l'époque qui suivit, son enthousiasme lui valut cependant un statut symbolique dans le nouveau Japon qui se formait à l'époque Meiji, dans lequel s'imposait l'idée selon laquelle seul un retour à des sources dépouillées des accrétions continentales pouvait mettre les Japonais en mesure de supporter le choc avec l'Occident et leur fournir les instruments ou les armes indispensables pour y répondre. Et il faut ajouter que ce projet de Atsutane trouve son origine intellectuelle, encore une fois, chez Norinaga, n'est-ce pas, Motori Norinaga, qui avait fait une sorte de renarration du Kojiki, qui est un peu difficile, indigeste à lire tel quel, n'est-ce pas, et déjà, donc, Norinaga en avait fait un texte beaucoup plus lisible. De ce côté-là, Atsutane ne fait que le poursuivre, tout en ajoutant, en s'aidant de sources plus vastes. Alors l'autre facette des travaux et études d'Atsutane est certainement celle qui a causé le plus de perplexité chez les érudits japonais les plus acquis au confucianisme, mais qui ont provoqué un retentissement incontestable dans des cercles plus larges. Et, disons-le aussi, c'est celle qui serait le plus en harmonie avec les goûts de notre époque. Il suffirait de rappeler la vogue des monstres, n'est-ce pas, des yokai, qui forment à présent une part importante de l'exportation culturelle japonaise, comme en témoignent les films, les mangas, les expositions, pour s'en assurer. Mais il est très. Et aussi, comme discipline universitaire, vous avez parmi les plus grands maintenant historiens japonais qui travaillent sur les yokai, parce qu'il y a, une demande du public et donc des médias tout à fait incontestables. Mais il est très intéressant de voir que l'encyclopédisme et l'éclectisme, et l'éclectisme érudit de Hirata Atsutane l'avaient déjà amené bien au-delà de ses prédécesseurs philologues nationaux dans la recherche d'autres univers. Et à ce propos, je devrais aussi vous citer l'article de Yanaga Nobumi dont je vous ai déjà parlé et dont je reparlerai dans un instant sur la mythologie et Atsutane. On se rappelle notre brève allusion à la vision très pessimiste de l'existence post-mortem chez Motohori Norinaga, qui étend à l'ensemble de l'humanité la scène horrible de la remontée de la déesse Izanami du royaume des morts, avec son frère et époux Izanagi, n'est-ce pas, du Yomi no Kuni. Et donc, lorsque Izanagi se retourne, il ne fallait pas cesser le mythe, c'est Orphée Eurydice, se retourne, il la voit, mais il la voit comme un cadavre pourrissant, et il est épouvanté, et Izanami retourne au royaume des morts, tandis que Izanagi, lui, se purifie de la souillure terrible qu'est le contact et la vue d'un cadavre. Et donc, chez Norinaga, il n'y a d'autre chose à attendre de l'existence après la mort que obscurité et pourriture. Pour Norinaga, donc, il fallait profiter au mieux des années de vie dont nous disposions dans la lumière de la voie des dieux quand on avait la chance d'être japonais. Atsutane ne se contente pas de cette existence. Son inquiétude l'a amené à étudier en profondeur, nous l'avons vu, le christianisme, et ça aussi, dont il n'a cependant pas fait ouvertement état. Vous voyez que ce 1806, c'est l'année de la mort de sa femme. Et l'on comprend pourquoi. Et donc, il n'en a pas fait état ouvertement, on comprend pourquoi. Mais ça l'a aussi amené à s'intéresser aux cosmogonies et aux mythologies d'autres religions et d'autres pays. On ne s'attendrait pas, sans doute pas à trouver de tels intérêts et de tels goûts chez celui qui est devenu, bien plus que son maître Norinaga, le parangon du nationalisme déchaîné. Mais les faits sont là, et nous avons de sa main une série d'ouvrages qui relèvent d'une toute autre préoccupation que de refaire l'histoire. Et donc je vous renvoie à l'article de Yanaga Nobumi, n'est-ce pas, qui est malheureusement en anglais, alors que c'est un francisant accompli, « A Precursor of Studies of Comparative Mythology, Hirata Atsutane ». Vous voyez, un précurseur des études de la mythologie comparée. Et là aussi, c'est un point de vue sur lequel j'espère revenir dans quelques années, s'il y a encore quelques années devant nous et devant moi. Cet article, je vous en donnerai la référence complète la semaine prochaine. Ainsi que le rappelle Yanaga Nobumi, l'intérêt d'Atsutane pour la mythologie comparée s'inscrit dans le prolongement de la pensée de Motohori Norinaga, qui s'était déjà posé la question du rapport entre les mythes cosmogoniques japonais et les traditions continentales, bien évidemment. C'est parce qu'on parle de la création du monde, nous étions dans le même monde, et les dieux qu'il avait formés devaient s'être occupés du même univers, à moins d'imaginer des univers parallèles. L'identification de l'astre solaire avec la déesse Amaterasu, n'est-ce pas, qui est, par exemple, le soleil réel, déjà établi par Norinaga, ne pouvait qu'ajouter à cette conscience universaliste. Le soleil brille pour tout le monde. Le monde avait bien été créé et façonné par les divinités japonaises, mais les autres nations avaient déformé le vrai récit des origines transmis par les écrits japonais, les mifumi. On pourrait d'ailleurs, pour revenir à ma préoccupation de l'histoire des religions, n'est-ce pas, on pourrait soutenir que Hirata Tsutane ne faisait qu'anticiper les travaux du célèbre, enfin autrefois, Wilhelm Schmidt, n'est-ce pas, qui est mort 1868-1954, qui était un prêtre catholique, théologien allemand, théologien, linguiste, ethnologue, et surtout, pour moi en tout cas, historien des religions, qui, dans les 12 très gros volumes qu'il consacra à sa thèse, n'est-ce pas, l'origine de l'idée de Dieu, Der Ursprung der Gottesidee, n'est-ce pas, de 1912 à 1954, il s'acharna à démontrer avec une immense érudition que l'humanité entière avait reçu dans la plus haute antiquité, dès la création d'Adam, n'est-ce pas, la notion d'un Dieu unique, et que le monothéisme était donc au cœur de toutes les religions, mais qu'il s'était déformé au fil de l'histoire et de l'évolution des langues et des cultures. La tâche de chercheur étant en conséquence de retrouver, de mettre en lumière au sein de tous les peuples cette révélation primitive. Bon, vous vous doutez bien que cette thèse ne rencontre pas un grand succès en ce moment, mais justement, Yanaga Nobumi met bien en évidence dans les écrits de mythologie comparée d'Atsutane l'usage qu'il fait de la notion de distorsion Atsutane, n'est-ce pas, exactement comme Wilhelm Schmidt, n'est-ce pas. Et je n'entre pas dans les détails, mais cette notion de distorsion qu'utilise Atsutane, il a été la chercher chez Tominaga Makoto, qui utilise le même mot à propos de l'évolution des langues, n'est-ce pas. On voit bien encore une fois la filière intellectuelle. On peut aussi souligner que c'est sans doute aussi Tominaga Nakamoto qui a amené Atsutane à s'intéresser aux idées pré-bouddhiques ou para-bouddhiques des penseurs indiens, et en particulier des maîtres hétérodoxes, vous savez, contre lesquels était censé s'être opposé le Bouddha, et dont Nakamoto avait fait le repoussoir indispensable au Bouddha Shakyamuni dans l'élaboration de sa doctrine. Mais Atsutane ne s'intéresse pas uniquement à la mythologie comparée, encore que l'on puisse relier son étude à d'autres préoccupations, notamment l'étude de la mythologie comparée, parce que on compare aussi les au-delà, et surtout à sa préoccupation de l'au-delà, ces préoccupations qui se font jour de façon plus évidente dans un texte qui est à présent connu, assez connu hors du Japon, car il a retenu l'attention de plusieurs spécialistes au fil des années. Il s'agit de la relation admirable du monde des immortels, Senkyo Ibun, qui a été fait en 1822. Œuvre qui le rapprocherait, j'ai fait une comparaison avec Wilhelm Schmidt, cette fois on pourrait le comparer avec Swedenborg, n'est-ce pas, que vous connaissez peut-être, c'est un illuminé suédois de la fin du XVIIIe siècle, qui se promenait dans l'au-delà, comme les autres vont au jardin de Luxembourg, n'est-ce pas, et qui a fait, notamment dans ses Arcana Celestia, les arcanes, les mystères du ciel, et d'autres livres, des relations extrêmement réalistes de ce qu'il avait vu, et tout ça en latin. Alors, la jeunesse de cette œuvre, admirable au sens ancien, n'est-ce pas, vraiment étonnant, n'est-ce pas. Il s'agit de relations, et la genèse de cette œuvre, et de cette œuvre du Senkyo Ibun est en tout point admirable aussi. Il s'agit de relations orales, faites par un adolescent japonais du nom de Torakichi, qui aurait été enlevé à l'âge de 7 ans par un Tengu, n'est-ce pas, vous vous souvenez de ce que sont ces Tengu, ces espèces de divinités des montagnes dont je ne refais pas la genèse, mais qui sont très proches des Yamabushi, du Shugendo, donc de ces ascètes shinto-bouddhiques, on peut dire, qui se promènent et pratiquent dans les montagnes qui ont été étudiées en Europe au début par mon collègue, ami et maître Hartmut Rottermund, n'est-ce pas. Donc ce Torakichi aurait été enlevé à l'âge de 7 ans par un Tengu à Iwamayama, évidemment, dans la province de Shitachi, tout au nord, et où les Tengu circulent comme tout le monde. Il aurait obtenu d'eux des pouvoirs merveilleux, encore une fois des Jinzu, n'est-ce pas, des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs divins, qui lui permettaient de circuler entre les mondes. L'adolescent avait, semble-t-il, réellement existé. Vous savez, c'est comme ces fils du tsar, etc., qui apparaissent brusquement et que tout le monde s'arrache dans les salons. Donc, il aurait été pendant un moment la coqueluche d'Edo dans les milieux un peu, un peu, un peu snob d'Edo, et Atsutane le prit sous sa protection. Et tandis qu'il vivait chez lui, alors il y a eu deux époques, il y a eu plusieurs mois où, dans lesquels s'est constitué ce livre, et puis ensuite, il semble que Tolakuchi soit resté plus longtemps à demeure chez Atsutane. Enfin, bon, je ne sais pas. Et pendant donc plusieurs mois, il l'assaillit de questions. Atsutane assaillit le jeune homme, c'était un adolescent à l'époque, il devait avoir quelque chose comme 14 ans, sur la vie et les mœurs de l'autre monde. Non seulement cela, mais il se servit du jeune homme comme une sorte d'agent de liaison avec l'au-delà. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup à Swedenborg, n'est-ce pas, qui lui, c'était les anges qui s'occupaient de la communication. Avec l'au-delà, en transmettant aux intéressés, donc aux dieux et aux habitants qui sont une sorte de chez nous, mais bien mieux, n'est-ce pas, il n'y avait pas de minuterie dans les escaliers. Mais c'est vraiment une sorte de réalisme transposé. Donc, il fait porter par Tolakichi ses écrits et ses lettres et ses interrogations aux habitants de l'autre monde qui répondent. Et donc, ça fait un document assez unique pour ceux qui s'intéressent à la vie de l'au-delà et à cette pensée cachée d'Atsutane, parce que de même que le Honkyo Gaihen avait été mise sous le boisseau jusqu'à ce qu'on la redécouvre bien plus tard avec la philologie moderne. Cette relation admirable n'a été réservée qu'à quelques disciples seulement et n'aurait pas circulé du vivant d'Atsutane. Là aussi, il n'est pas difficile d'imaginer l'impact du décès de sa femme, n'est-ce pas ? Donc voilà, le Shinto ne lui procurait absolument aucune consolation. Ce qu'avait dit Norinaga n'était pas pour faciliter les choses. Le bouddhisme, nous allons voir peut-être la semaine prochaine ce qu'il pensait de la renaissance bouddhique, qui est férocement drôle. Et donc, il a trouvé dans le christianisme et ce développement de médiumnique, en quelque sorte, une consolation, une vraie description de la vie de l'au-delà, où il pouvait s'imaginer les êtres qu'il aimait vivant encore et indéfiniment. Nous voyons que nous sommes, avec cette facette décidément occultiste des activités studieuses de notre philologue national, pratiquement aux antipodes de ce que nous avons pu délimiter des idées de Tominaga Nakamoto. Il est donc d'autant plus étonnant que l'une des œuvres de Atsutane qui eut le plus de retentissement à son époque, encore qu'elle fût bien oubliée par la suite, est directement inspirée du jeune iconoclaste. Il s'agit d'un ouvrage divisé, je vous redonnerai tout cela la semaine prochaine, il s'agit d'un ouvrage divisé en quatre livres relativement peu étendus, publié en 1811, n'est-ce pas ? En 1811, c'est-à-dire... relativement peu, sous le titre de « Propos hilar au sortir du recueillement », le Shutsujo Shogo. C'est-à-dire qu'il change un caractère dans le titre de Tominaga Nakamoto, le Kogo devient Shogo, et les propos rigolards, si vous voulez, je me suis amusé à le traduire par gélastologie, n'est-ce pas, à la Rabelais, n'est-ce pas, l'étude par le rire. Mais donc, c'est publié en 1811, et juste avant... ce qui est quand même le grand œuvre de Atsutane, qui s'appelle le Tama no Mihashira, l'auguste pilier de l'âme, justement, qui est ce Tama no Mihashira qui est de 1812, est en quelque sorte le précurseur déjà constitué de ses voyages dans l'au-delà de 1822, où il affirme, cette fois en mettant en application ce qu'il a appris des textes chrétiens, qu'il y a un au-delà pour les, même pour le Shinto, et que les gens survivent après la mort, et que ce n'est pas si désagréable que cela. Donc on voit, alors en 1811, il liquide le bouddhisme, en 1812, il établit son au-delà à lui, dans le cadre du Shinto, du Kodo, donc Inishie no Michi, la voie de l'Antiquité, qui se fonde sur son histoire restaurée, Inishie no Shi, n'est-ce pas, l'histoire de l'Antiquité. Comme nombre de ses ouvrages, il s'agit de cours professés à ses disciples dans le cadre de son académie privée et qui furent ensuite remaniés par lui-même avant la publication. Mais avec ses propos hilars, nous avons la chance de disposer d'un bonus, en quelque sorte, représenté par ce que l'on appelle l'appendice des propos hilars au sortir du recueillement, le Shutsujo Shogo Furoku, dont la préface est datée de 1813, c'est-à-dire très peu de temps après, où sont recueillies les causeries extemporées qu'Atsutana avait données autour de ses cours et dont la teneur avait été laissée de côté dans la gélastologie, si je puis dire. Je voulais simplement vous donner... Alors, les disciples les avaient notés, c'est ce qui est expliqué dans cette préface, n'est-ce pas ? Dans cette préface qui est signée par trois de ses disciples. Alors c'est une préface très intéressante, je ne vais pas vous la lire, mais vous voyez que ici, à la fin, il désigne ses principaux ennemis, n'est-ce pas, ceux que Atsutane a dans le collimateur, vous voyez ici, Shinran Nichiren no ni no nishu, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est la secte de la terre no niha, n'est-ce pas, voilà, ce sont ceux contre lesquels il en a le plus. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il parle à leur sujet de jashu, vous voyez, d'école hérétique, hétérodoxe, du point de vue bouddhique même, c'est-à-dire que, alors qu'il n'est pas bouddhiste, il soutient que ce sont des... C'est encore pire que les bouddhistes, en quelque sorte. Alors, les disciples les avaient notés, ces propos, disons, les propos qui n'ont pas trouvé leur place dans le texte principal, n'est-ce pas ? Donc, les disciples les ont compilés en un petit volume, dont la lecture est très agréable, divertissante et enrichissante pour notre représentation d'Atsutane, qui apparaît ici comme un esprit fort et un rationaliste convaincu. Ce qui n'est pas du tout en réalité, mais disons, il joue l'esprit fort avec le bouddhisme. Il me semble que c'est l'introduction la plus aisée à ses idées sur le bouddhisme. Nous y reviendrons dans un instant. Mais comme nous l'avons dit, le traité de Tominaga Tsuki, de Nakamoto, donc, est l'arsenal où Atsutane puise ses munitions contre le bouddhisme. Des munitions érudites dont il va retirer les arguments persifleurs qui valent son titre à son pamphlet. Pour ce qui est du contenu même, l'appareil érudit vient essentiellement des recherches de Nakamoto, sur lesquelles Atsutane élabore ses propres commentaires. C'est en quatre livres, n'est-ce pas ? Les deux premiers livres reprennent donc l'examen critique de la biographie du Bouddha historique. Bon, c'est pas difficile d'y trouver des contradictions et des impossibilités. Le troisième est un examen des principaux sutras du canon bouddhique, et là encore, les contradictions dans l'élaboration du sutra. Tout ça a été fait par Nakamoto. On ne peut pas dire que le sutra du lotus soit la même chose que les agamas, par exemple. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, ben, il suffit de lire avec une objectivité philologique non partisane pour comprendre que ce sont des textes différents. Maintenant, les bouddhistes, comme je vous l'ai dit, les ont tous intégrés dans une armature intellectuelle, dogmatique, scolastique, que Nakamoto a démolie, démontée avec plaisir, mais ce n'était pas non plus très difficile. Le quatrième, en revanche, innove sur l'œuvre de Nakamoto en présentant une critique du bouddhisme japonais. Vous voyez, c'est un peu ce que je viens de dire. Ce que l'on vient de lire dans mon appendice, plus particulièrement dans les formes qu'il a prises à son époque. Il esquisse d'abord, dans le quatrième livre, une histoire du bouddhisme dans l'Empire à partir de son introduction au milieu du VIe siècle. Et, encore une fois, il s'en prend surtout à la fin à ces deux sectes, comme il aurait dit lui-même, Nichiren et Shinran, c'est-à-dire le Jodo Shinshu. Alors, malgré le sermon sur la montagne qu'il a lu, Atsutane se montre très très peu charitable à l'égard de la simplicité intellectuelle qu'il met en relief chez les croyants de ces, chez les croyants populaires japonais et même chez les bonzes, ce qu'il appelle les bonzes, n'est-ce pas, bose, qui n'est pas très élogieux dans sa bouche à l'époque. Alors il faut dire aussi un mot du style de ces deux ouvrages, qui ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Bon, je vais passer ça parce que je vois que le temps passe, mais disons que le texte qui va nous intéresser ici est écrit en langue japonaise parlée, n'est-ce pas ? Vraiment, c'est du japonais parlé avec. Alors, vous voyez, quand on vous raconte que l'officialisation du japonais, de la langue, disons, moderne japonaise dans l'écrit date de la fin du 19e siècle, c'est, là aussi, c'est de l'histoire recomposée. D'ailleurs, il faudrait être un nouvel Atsutane pour refaire l'histoire de la langue japonaise. En réalité, le japonais parlé était déjà écrit à l'époque d'Edo, mais dans certaines circonstances. Je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, vous allez voir, nous avons vu que Nakamoto accorde une grande importance aux questions langagières dans sa réflexion sur l'incompatibilité du bouddhisme avec la Chine, et davantage encore avec le Japon. La distance des mœurs et des mots fait que cette religion ne peut rien apporter au Japon. La doctrine du Bouddha, vous vous souvenez, devenait de la boue une fois importée en Chine. Réexportée de surcroît vers le Japon, cela devenait de la boue de boue. Doro no doro, il le dit. Parfaitement inutilisable donc par le peuple japonais. Nous pouvons dire que Nakamoto a coupé le lien singulier, particulier, qu'avait noué Jien, vous vous souvenez, Jien vers l'an 1200, entre la langue japonaise et la langue de l'Inde, la langue brahmique, le bongo, par-dessus la langue chinoise. Langue et écriture, ne l'oublions pas, les deux notions sont entremêlées au point d'être indissociables. Donc cette introduction de la langue japonaise dans l'univers linguistique bouddhique avait une conséquence directe, nous l'avons vu, sur la réévaluation de la poésie japonaise, des poèmes classiques japonais, dans la culture des lettrés. Les poèmes japonais étaient à la fois d'origine divine japonaise, puisqu'ils avaient été inventés par les kami, et porteurs de la vérité bouddhique grâce au dogme de l'assimilation des bouddhas et des dieux, Honji Suijaku. Les dieux sont des émanations, des avatars, des entités bouddhiques. Et de même, les shingon, donc les paroles de vérité, les mantras et dharani, étaient assimilés au waka. Et n'oubliez pas que shingon se lit en japonais makoto, les paroles véritables. C'est le makoto no michi que nous voyons constamment. Il y a toujours en super. Vous voyez, je vous ai toujours parlé de cette imprégnation subliminale que procure le kundoku, la lecture japonaise, au terme chinois, n'est-ce pas ? En lisant Makoto, et Norinaga joue explicitement sur les deux termes. Ce n'est pas mon invention, on le trouve chez Norinaga, Shingon Makoto. C'est un très bel édifice qui est venu mettre à bas d'ailleurs la critique de Nakamoto. Après Nakamoto, Motori Norinaga, nous l'avons vu, semblait estimer que la langue japonaise se justifiait elle-même de par son essence divine. Retrouver la voix des dieux était en même temps retrouver le vrai sens du verbe divin. N'oubliez pas que Mikoto, qui est l'appellation des dieux, n'est-ce pas, le Mikoto, Nantoka no Mikoto, c'est le seigneur de tel kami, n'est-ce pas, mais ça veut dire aussi l'auguste verbe, hein, l'auguste mot. Nous retrouvons tout cela. Mais Atsutane voulait aller plus loin et conférer à la langue des dieux une perfection qui ne pouvait s'accompagner que de la possession d'une écriture particulière. Et nous verrons dans les dernières leçons ses réflexions à ce sujet. Et nous devons comprendre dès maintenant quelles sont les conséquences directes de ce départ du bouddhisme qu'il mène à bien dans ses propos hilares. En délégitimant le lien entre bouddhisme et langue japonaise à travers sa description sans concession des travers de cette religion au Japon, Il ouvre un espace de relégitimisation qu'il va ensuite s'évertuer à compléter. Mais tout d'abord, illustrons par une page tirée donc de l'appendice du Furoku le lien indubitable entre Nakamoto et Atsutane, puisque je vous en parle depuis. Mais ce lien est partout présent, et nous allons le voir ici, qui se retrouve à tous les niveaux de son exposé. Nous le reconnaîtrons immédiatement. Je vous invite à suivre pour ceux qui connaissent le japonais. Vous voyez, bon, oui, ça commence toujours de façon un peu difficile, mais ce n'est pas si difficile que ça. Vous allez voir si vous suivez bien. Mais voilà. Alors, c'est la page 14, vous voyez, à gauche, c'est le dernier rond. Le Sate, Shakawa, Jinzu o eta toyunga. C'est donc la deuxième ligne avant la fin. Ainsi, est-il écrit que Shakyamuni obtint les pouvoirs divins. Mais cela n'est en réalité que l'illusionnisme. Vous voyez, Genjutsu, ici. Genjutsu qui est lu Maho. Donc, vous voyez, c'est ce que Nakamoto n'arrêtait pas de dire, vous vous souvenez, n'est-ce pas ? Donc, ainsi, il est écrit que Shakyamuni obtint les pouvoirs divins. Mais cela n'est en réalité que l'illusionnisme, Maho, Genjutsu. Il n'a fait que tromper les gens à l'aide de cet illusionnisme. Et en plus, cet illusionnisme s'est transmis jusqu'en notre auguste empire, ce qu'il appelle le Mikuni, n'est-ce pas, qu'il appelle je ne reviens pas sur le caractère qu'il utilise pour Kuni, nous n'avons pas le temps, mais donc Mikuni, c'est l'empire japonais, qu'il écrit parfois aussi avec Shinkoku, n'est-ce pas, le Kami no Kuni, le pays des dieux, qu'on peut dire aussi Kamiguni, ou bien Mikuni aussi chez lui. Donc cet illusionnisme s'est transmis jusqu'en notre auguste empire. Tout récemment encore, Chikaku, dans les ères Kanhei et Shōhō, c'est-à-dire 1624-1648, grosso modo un siècle, presque deux siècles avant lui, il y eut un individu qui, uniquement par la pratique de cet art, waza, n'est-ce pas, uniquement par la pratique de cet art, avalait des chevaux, umaonomi, se faisait invisible, faisait surgir un dragon de l'eau, transformait un terrain plat en mer, c'est David Copperfield, n'est-ce pas, et toutes sortes d'autres bizarreries, kikai, par lesquelles il trompait les braves gens, yonoshito, n'est-ce pas, il avait nom, alors il donne le nom, n'est-ce pas, je pense qu'il faut lire Hanagokoro Koji Kageya Seizaburo, sur lequel je ne trouve rien, mais c'est-à-dire Seizaburo des ombres, n'est-ce pas, Kageya Seizaburo. Et comme un nombre considérable de personnes furent ainsi trompées, ces artifices furent strictement interdits à l'époque, à l'époque du seigneur du Taiyuin, c'est-à-dire le troisième shogun, Iemitsu, n'est-ce pas, il a gouverné jusqu'en 1651, et comme l'ère Shōhō finit en 1648, on peut penser que c'est autour de 50 que cette interdiction a eu lieu. Ce qui fait qu'on en est à présent débarrassé. Mais cela n'empêche pas qu'on les retrouve de loin en loin, Tamasaka, n'est-ce pas, Tamasaka Wahadu, dans les années Temmei, alors là il est tout près de c'est un compte, dans les années Temmei, c'est-à-dire 1780-1789, il y eut un coiffeur, vous voyez, Kamikiri, Adoiwa Sekito Migaki, ou bien un polisseur, alors c'est un obélix à la japonaise, un polisseur de stupa de pierre qui s'y livrèrent. Alors, et c'est ainsi qu'il illustre. Nous voyons dans ce passage Atsutane reprendre le terme de Genjutsu, l'illusionnisme, dont Nakamoto avait fait si fréquent usage dans ses deux œuvres pour caractériser le mode de propagande des idées du fondateur du bouddhisme. On se souvient que le jeune érudit Nakamoto donc, avait donné pour équivalent japonais le mot Izuna, qui se rapportait à des disciples des rituels de possession assez obscurs. Ici, Atsutane se livre à une opération de dévalorisation bien plus radicale encore, puisque c'est grâce à la magie du kundoku qu'il fait lire Genjutsu, qui est un mot sino-japonais, par un autre mot sino-japonais qui est maho, qui signifie littéralement méthode démoniaque, n'est-ce pas ? Alors le Bouddha, vous voyez que lorsqu'il dit le Bouddha a utilisé du maho, le Bouddha, ma c'est le terme même qui désigne les démons que Shakyamuni avait vaincus. Vous vous souvenez il y a vraiment une inversion des valeurs qui est assez terrible. Donc, l'usage que fait Atsutane du traité savant de Nakamoto est clair. Il reprend ces catégories pour les appliquer aux pratiques les plus sordides et inquiétantes de la société japonaise, pratiques qui ont fait l'objet d'interdictions officielles, mais qui reprennent de temps à autre des personnages peu recommandables. Du Genjutsu de Shakyamuni en Inde au Maho d'un barbier d'Edo, il n'y a qu'un changement de lecture. Alors, je vais revenir à la... Nous pouvons, à partir de ce premier extrait, avoir une idée de la verve qu'Atsutane va exercer à l'encontre de son sujet. Nous voyons que notre auteur, plutôt que s'attaquer, que d'attaquer les fondements historiques et doctrinaux du bouddhisme, ainsi qu'il l'avait fait dans son œuvre principale, donc les propos hilars, n'est-ce pas, les propos rigolards, si vous préférez, est avant tout préoccupé de ses conséquences sur la société et la mentalité japonaise. La première page est très significative à ce sujet. Lisons-la. Et vous voyez, ça commence par une citation. Encore une fois, c'est pas du plagiat. Il se cache, mais il se cache derrière quelqu'un d'autre. Donc, Matsushita Gunko, c'est quelqu'un qui a écrit sur justement le Gungaku, la polémologie, la science des armées, etc. Dans son traité de l'équilibre entre les dieux et les armes, Shimbu, vous allez voir, déclare, même à la cour japonaise, Chōtei, à cause des bonzes qui se sont permis d'aller jusqu'à la berner, c'est-à-dire berner la cour, c'est-à-dire l'empereur, nombreux sont les guerriers d'antique lignée qui ont été dupés par les moines. Ce qui fait qu'à présent, il est tout particulièrement irritant, Niganingashi Kotoja, vous voyez, c'est du japonais parlé. Il est tout particulièrement irritant de constater dans les traditions des spécialistes du protocole et des maisons guerrières, c'est-à-dire que c'est samouraï et protocole étant très liés, de constater le grand nombre de caractères brahmiques, n'est-ce pas, les bonji, portant les noms de divinités bouddhiques comme Fudo Myojin, Aizen Myoho, Dainichi Nyorai, inscrits même sur les bannières. Alors, là, représentez-vous une armure japonaise, n'est-ce pas, vous avez tout, il suffit d'aller voir un antiquaire rue Mazarine, par exemple, et vous verrez tout cela confirmé, n'est-ce pas, sur les bannières, les hata, n'est-ce pas, les tentes, les toiles de tente, les maku, les bâtons de commandement, ou plutôt les espèces de chasse-mouches de commandement que sont les saihai, n'est-ce pas. Les fouets, les gants de protection, les yugake, c'est ces gants pour tirer à l'arc, les manteaux de protection, alors là, ce sont des espèces de parachutes qu'avaient les cavaliers japonais pour amortir les flèches par derrière, n'est-ce pas, les éventails, uchiwa, ou bien d'autres, et encore, ou bien encore le recours des bonji là-dessus, n'est-ce pas, qui était destiné à protéger. Ou bien le recours qu'ils font au discours des deux mandalas, les ryobu, vous savez, je n'insiste pas sur les deux mandalas de la secte Shingon, mais ce sont, on les a utilisés pour unifier une forme du Shinto avec les deux mandalas devenant la fusion des deux sanctuaires principaux d'Issei, etc., etc. Donc nous sommes en plein syncrétisme, Shinto-bouddhique. Donc, à coup de citations de termes bouddhiques dans leur transmission orale. Alors, vous voyez, donc, Matsushita se désole. Alors, bien que Atsushita se réfugie ici derrière une citation Atsutane se réfugie derrière une citation de Matsushita, qu'il va souvent citer dans ses causeries, c'est sa propre indignation qu'il rapporte, bien qu'il continue à s'en remettre à ce dernier. Et c'est le paragraphe suivant, n'est-ce pas ? Oui, c'est cette... Ah, oui, bon, ça... Petit problème. Enfin, voilà, essayons de rester sur cette page. À quoi peuvent bien servir, n'est-ce pas, c'est la page 2 à droite. Nous sommes à la ligne 5, à la cinquième ligne. Hein. Et vous voyez qu'ici, il dit Shinkoku, n'est-ce pas, Kaminokuni, qu'on peut dire Mikuni aussi. À quoi peuvent bien servir, je vous le demande, les lettres brahmiques des Fudo et des Aizen Myoho dans notre divin pays, Shinkoku? Vous savez qu'il y a vers l'an 2000, je vous en ai peut-être déjà parlé, un ministre des Affaires japonais, je crois, a été obligé de démissionner parce qu'il avait commis l'erreur de parler de Shinkoku à propos du Japon. Donc ça avait soulevé une vague d'indignation. Pour ma part, bien que j'ai des années durant, c'est Matsushita qui parle, scruté l'art de la guerre, Gungaku, et me suis usé le corps et l'esprit aux arts martiaux, Bujutsu, je ne pense pas du tout que les termes bouddhiques et les lettres brahmiques aient la moindre utilité. Mais mes aînés, mes senpai en font ainsi. Et dès lors, dans mon enseignement à mes disciples, je laisse les choses telles qu'elles sont, sans chercher à les amender. Vous voyez, ils laissent faire. Cependant, s'ils viennent à m'interroger là-dessus, je dis que c'est une honte, même Mokunai. Je ne peux qu'approuver, dit Atsutane, cette mise à nu, Bake no kawa o ii lawashite, de sa propre école. Il était nécessaire de commencer notre présentation des idées d'Atsutane sur le bouddhisme par ce passage qui n'est même pas de lui, parce que nous avons clairement ici indiqué ce départ du bouddhisme dont nous avons fait le thème du cours de cette année. Si Atsutane avait été bouddhiste, il aurait pu arguer de la contradiction qu'il y avait à utiliser ce qui représente, nous le savons au Japon depuis le traité de Kukai, le lien ontologique qui relie tous les niveaux de l'être, justement par les phonèmes, hein. Et les bonjis, de prendre cela pour de vulgaires talismans de bataille. Pire encore, ces talismans sont utilisés dans la perpétration du pire crime qui soit, celui d'attenter, dans le bouddhisme, c'est pas celui d'attenter à la vie. C'est chaud. Mais ce n'est pas ce qui indigne Matsushita et Hidata. C'est de voir les nobles, la cour impériale elle-même, victimes des manœuvres rusées et sordides des bonzes, qui profitent de l'ignorance des guerriers, qu'il va décrire tout à l'heure, alors qu'ils sont eux-mêmes tout aussi ignorants, ainsi que nous verrons aussi dans la suite de cette page. Nous voici lancés dans la diatribe d'Atsutane. Nous verrons dans les prochaines leçons se développer la critique d'ensemble de notre auteur à l'encontre de la place désastreuse, selon lui, du bouddhisme dans les représentations du peuple japonais. Le dharma sera mis à rude épreuve, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup pour aujourd'hui.